Interview.
10 voix pour l'interview, émission que vous écoutez sur les ondes FM en 107.5. Et aussi, vous pouvez écouter l'émission en podcast sur le site internet www.rdwa.fr. Au studio, aujourd'hui, nous sommes avec monsieur François Médéline. Bonjour.
Bonjour.
François Médéline, vous êtes auteur, ou du moins vous êtes ici présenté comme auteur pour un ouvrage qui est sorti d'ailleurs depuis combien de temps ?
Depuis le 4 mars.
Donc tout récemment, et qui s'intitule « La sacrifiée du Vercors ». Donc ça se résume en quatrième de couverture comme le roman noir sur l'épuration. Vous êtes originaire du Vercors ?
Je suis lyonnais de naissance. Ouais, j'ai fait la moitié de ma vie à Lyon et l'autre moitié de ma vie dans la Drôme. Donc je suis, on va dire, moitié-moitié. Je suis domicilié à Romans-sur-Isère, voilà, où je vis depuis que j'ai une trentaine d'années. Et puis j'ai passé une partie de mon adolescence à Romans-sur-Isère. Et c'est vrai qu'à Romans, à chaque fois qu'on se lève le matin, la première chose qu'on voit, effectivement, c'est le Vercors. Donc pendant mon adolescence, je suis monté me balader dans le Vercors comme tout le monde. J'ai fait le Vémont une fois. je suis allé me baigner, faire des balades. Et puis j'ai de la famille qui a un domicile en fait sur la commune de Saint-Julien en Vercors. Donc c'est des lieux où j'ai l'habitude d'aller.
Donc vous êtes là pour ce livre, La sacrifiée du Vercors, qui parle d'un meurtre qui se déroule à l'heure de l'épuration en France. Et puis donc on retrouve une jeune femme sauvagement assassinée et violée. Et c'est en pleine époque justement où on tondait les femmes qui auraient collaboré avec l'ennemi. Cette idée de situer votre histoire dans un contexte historique et de lieu... Qu'est-ce qui vous a amené, particulièrement pour le Vercors ?
Ce qui m'a amené, l'idée du livre est arrivée parce que dans ma famille maternelle, comme dans de très nombreuses familles françaises, on m'avait raconté que j'étais d'une grande famille de résistants, que mon arrière-grand-père était résistant, que mon grand-père était résistant, voilà, qu'on avait des fermes, qui étaient des caches d'armes de la résistance. Enfin, on m'a même raconté à l'école primaire, au collège, que la France avait gagné la guerre avec le général de Gaulle, les Anglais et les Américains. Puis après, j'ai grandi, je suis allé à l'université. Je me suis rendu compte qu'il y a un livre d'ailleurs d'un historien qui s'appelle Henri Amouroux, qui s'appelle « 40 millions de pétainistes », qu'a priori, on avait plutôt gagné la guerre et que les résistants étaient finalement ultra minoritaires. Ce qui rend d'ailleurs leurs actions encore plus héroïques. Puis j'ai aussi appris qu'il y a eu 25 millions de morts soviétiques, dont 18 millions de morts russes. Un chiffre que j'avais dû l'entendre, vous savez, dans le tableau des pertes de la Seconde Guerre mondiale, mais très très rapidement en seconde. Et puis mon grand-père, par rapport à mon histoire familiale, n'a jamais voulu parler de cette époque-là. Il était très très taiseux. Donc au bout d'un moment, on s'est dit, mais peut-être qu'on est comme dans toutes les familles, on a construit un mythe. Hein, on a tous des aïeux résistants. Mais objectivement, ça ne peut pas être le cas. Et comme on savait que mon grand-père a eu une petite enquête sur lui en 1946, on en est même arrivé à la fin à se dire, mais peut-être on est peut-être descendant d'une famille de collaborateurs. Et il a fallu attendre en fait 2005, alors c'est pas mon grand-père qui en a parlé, il a fallu attendre 2005 quand ma maman a restauré la ferme familiale, puisque mes arrière-grands-parents étaient paysans dans un village de la Drôme. Bah, elle est tombée en fait sur des documents dans un coffre dont on a pris connaissance en 2005. Et donc on a eu la véritable histoire de mon grand-père pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc oui, il était bien résistant, il y avait des organigrammes de la résistance locale d'ailleurs manuscrits. Voilà. La maison était bien une cache d'armes, mais il en a jamais parlé parce que il a dû encadrer l'épuration. Il a été nommé commissaire à la République et il a encadré l'épuration dans une partie de la Drôme. Donc il y avait à peu près 300 rapports de police qui étaient signés de la main d'un commissaire et qui était en fait mon grand-père. Donc l'idée du livre, pour répondre précisément à la question, elle m'est venue surtout pour ça. Et puis après, le Vercors, pourquoi ? Parce que ça se passe dans la Drôme, c'est le lieu quand même le plus symbolique, et pas seulement dans la Drôme. Voilà, c'est vraiment une terre sacrifiée. Quand on y allait adolescent, mais même quand on était à l'école, on allait au mémorial de Vassieux, cours des fusillés de la chapelle. Il y a les 16 noms qui sont marqués sur une plaque sur le mur des fusillés, dont un nom, Philippe Saint-André, le même nom d'ailleurs que le Philippe Saint-André qu'on connaît, puisque c'est son grand-père, il porte le nom de son grand-père, qui était fusillé devant le mur des fusillés à la chapelle en Vercors. Voilà, c'est une terre vraiment ravagée. Il y a eu 600 combattants qui sont morts en quelques jours à la fin juillet, début août 44, et 201 civils qui ont été exterminés par ce qu'on appelait par les troupes de la Wehrmacht qui sont montées dans le Vercors à 10 000. Mais c'est pas du tout des troupes d'élite, malgré ce qu'on raconte souvent dans la Drôme. C'était pas Oradour-sur-Glane, c'était pas des Waffen-SS, c'était la Wehrmacht, le général Pfaum, et c'était des troupes de réserve. Mais pour les maquisards du plateau, qui étaient là depuis début 43, et pour une grande majorité depuis, on va dire, le mai-juin 44, c'était des troupes d'élite. Et donc, ils ont massacré, surtout après les combats, ce qu'on appelle les troupes de l'Est, les Mongols, on les appelait à l'époque, et les supplétifs français ont vraiment exterminé notamment des habitants. Il suffit d'aller à Vassieux-en-Vercors pour voir que ce hameau, village, a été rasé, quoi. Et d'ailleurs, ils ont tellement été violents, les supplétifs français, que la milice française a reçu un blâme de Vichy, du gouvernement vichyste, qui avait trouvé leur action un petit peu trop violente dans le Vercors. Donc même si dans le haut état-major de Pétain, on avait jugé que les miliciens avaient été trop violents dans le Vercors, ça laisse imaginer les atrocités qui ont été commises là-haut. Donc l'histoire de mon grand-père, ce lieu assez symbolique qu'est le Vercors, pour tous les Drômois, mais bon, c'est très très connu à l'échelle de la France, puisque c'est une terre qui a été sacrifiée par De Gaulle, lui-même, puisque il avait lui le plan Caïman en tête, c'est-à-dire les troupes aéroportées devaient débarquer dans le Massif central pour imposer un haut commandement français aux Anglais et aux Américains. Et puis dans le Vercors, il y avait... le Vercors était administré un petit peu particulièrement puisqu'il y avait le gouvernement civil, un gouvernement civil et un gouvernement militaire. Et donc le grand chef civil s'appelait Chavan, c'était un cafetier de la banlieue grenobloise. Et ils avaient décidé avec le grand général Delestrin, le chef de la résistance, avant qu'il se fasse assassiner, arrêter et qu'il meure, de ce qu'on appelle le plan Montagnard, donc qui était le débarquement aéroporté dans le Vercors. Mais bon, à l'époque, alors je ne veux pas trop incriminer De Gaulle non plus, parce que lui, il avait des raisons politiques. Mais bon, il y avait Londres, il y avait Alger. Donc Chavan part à Alger, récupère auprès de Jacques Soustelle, le secrétaire général du CNL, la preuve qui va bien, que le plan Montagnard va bien être mis en œuvre. Donc les maquisards, ce qu'ils ont fait principalement dans le Vercors, c'est construire une piste, notamment, une piste d'atterrissage pour le débarquement aéroporté des Alliés, et notamment les parachutistes français qui étaient stationnés à Alger. Et en fait, ce sont les planeurs de la Luftwaffe qui sont posés sur cette piste-là. Donc c'était un moment qui m'intéressait beaucoup.
Il y a aussi cette tension des résistants sur le Vercors. Justement, vous disiez qu'ils aménageaient des pistes d'atterrissage. Il en existait une aussi pour les Allemands à Romans. Et il y a eu beaucoup d'échanges de messages pour exiger et demander, d'implorer même la destruction de ces aérodromes qui finalement...
Notamment celui de Chabeuil, oui.
Voilà, c'est Chabeuil plutôt, je
ouais,
voulais dire.
Ouais, Chabeuil.
Et donc Chabeuil, et ce qui fait que finalement cette histoire d'aviation allemande avec ses planeurs a pu se faire puisque le bombardement n'a pas pu être fait.
Oui, je pense que c'est une période très très trouble, c'est-à-dire que quand il y a le débarquement en Normandie, Eisenhower à la radio les Américains demandent le soulèvement de toutes les forces résistantes en France, donc il y a une espèce d'effervescence, il y a des coups de main qui sont menés par les maquisards. ça se passe tellement bien que dans le Vercors, et c'est la première 4e République a été proclamée dans le Vercors, je crois que c'est le 3 juillet. On a fêté le 14 juillet 44 la République libre du Vercors avec des drapeaux français, tricolores. Voilà, c'était un territoire autonome. Et dans le même temps, il y avait le général Koenig, qui était le grand général français, qui lui savait que ça allait mal se passer parce qu'en fait, c'était impossible d'envoyer 1000, 2000, 3000 parachutistes dans le Vercors, matériellement. Ils n'avaient juste pas les avions, ils ne pouvaient pas les envoyer là. Donc je pense qu'il y a une volonté politique de De Gaulle d'un côté, de privilégier le Massif central. Il y a les Français, la France libre avait peu de moyens. Hein. C'était quand même le grand chef, c'est Eisenhower, Churchill. c'est quand même eux qui décidaient comment les choses se passaient. Ce qui fait qu'après, quand les Allemands sont montés, alors ils ont livré d'ailleurs, ils ont fait les premiers parachutages d'armes en plein jour à la fin juin. Donc, ils ont vu des avions, des conteneurs par centaines arriver avec de l'arme. Ils étaient persuadés, là-haut, les 4000 maquisards, que ça allait être la tête de pont, en fait, l'une des têtes de pont du débarquement. Mais ils ont eu quelques bazookas. Ils ont eu très peu d'armes lourdes. Très peu d'armes lourdes. Donc, quand les Allemands sont arrivés, principalement en venant de Grenoble, hein, par le Vercors Nord isérois, et puis aussi par tous les accès du Vercors, bah, même si ce n'était pas des troupes d'élite, c'était une armée. Ouais, c'était une armée contre de jeunes gens, parce que la résistance, c'est surtout un mouvement de jeunesse. Voilà. Parce que, et c'est ce que j'ai aussi voulu traiter dans ce livre-là, c'est une époque compliquée et les choix étaient compliqués. Ouais, il n'y avait pas les gentils, le blanc, c'était pas blanc et noir. Il n'y avait pas les gentils d'un côté et les méchants d'un autre côté. La résistance, le gros des troupes de la résistance, il a fallu attendre février 43 avec le STO, les jeunes qui voulaient pas partir en Allemagne. C'est comme ça que les premiers camps du Vercors se constituaient, des ouvriers polonais au départ, puis après des réfractaires du STO. Et parfois, on avait un ami qui était résistant, alors on partait au maquis. Et puis des fois on avait une famille, des fois on avait un commerce. Ou des fois, on pouvait avoir aussi un ami collabo. Et par des rencontres, qu'est-ce qu'on aurait fait, nous ? Moi, c'est toujours quelque chose que j'ai au fond de moi. Qu'est-ce que j'aurais fait, moi, à ce moment-là ? Et est-ce que tout le monde y est allé parce que les Allemands exterminaient des Juifs ou pas ? Non, on y allait souvent pour des raisons personnelles. Les camps, il y avait les services secrets américains et anglais qui étaient au courant, on pense, depuis 1941. D'après les livres d'histoire. Mais dans la population, les raisons de l'engagement, elles ne correspondent pas tout le temps au grand récit national. Voilà. Il y a eu un petit noyau de résistance, je crois qu'ils étaient 800 à partir à Londres avec De Gaulle. Il y a des gens qui avaient aussi, c'est ça qui... Parce que quand on n'a rien, s'engager par romantisme, c'est déjà héroïque. Mais quand on a beaucoup, comme Jean Moulin, Pierre Brossolette, à perdre, ça allait peut-être encore... Ça allait peut-être encore d'autant plus.
Et puis à l'époque, il n'y avait rien de constitué. Beaucoup de monde se retrouvait avec un désir de résistance, mais l'idée était de savoir à qui s'adresser pour pouvoir participer à quelque chose, à un mouvement.
Après, il y avait quand même une organisation, on va dire. Il y avait les gaullistes d'un côté et les communistes de l'autre, voilà, pour le dire. Alors le pouvoir gaulliste, enfin, l'action du général de Gaulle est assez célébrée. On va dire, il y a même des séries télé sur France 2 récemment. L'action des communistes l'est quand même moins dans notre pays. Par exemple, c'est pour ça que je rappelle toujours 24 millions de morts soviétiques, 18 millions de morts russes. Et après, on peut penser ce qu'on veut de Vladimir Poutine, même comme Biden, que c'est un tueur. Et c'est sans doute c'est un régime très autoritaire, la Russie. Mais quand on n'invite pas les Russes aux commémorations de la Grande Guerre, qu'on invite Donald Trump, ça pose quand même des questions sur ce qu'est notre grand récit national, tout en sachant qu'il y a eu aussi le pacte de non-agression germano-soviétique, mais la base du Parti communiste français, en fait, n'a pas respecté le pacte, ça on le sait aussi historiquement parlant.
On revient au livre. Donc, La Sacrifiée du Vercors parle d'une victime, Marie Valette, violée et assassinée. Cette symbolique de cette femme, qu'est-ce qui vous a amené à ce type de personnage jeune?
Ce qui m'y a amené, c'est les 20 000 tondus dans les jours et les mois qui ont suivi la libération. Voilà, quand il y a eu un moment de ferveur populaire et expiatoire peut-être. Et dans ces moments-là, ce sont souvent les femmes qui sont victimes. Donc parce qu'on avait eu une amourette avec un soldat de la Wehrmacht ou un traducteur de la commandante Tour. Pour des raisons finalement assez intimes et personnelles. Souvent, ce qu'on disait à l'époque, des résistants de la 11e heure ou de la 23e heure, pour prouver qu'ils étaient des vrais résistants, il y a eu 10 000 morts aussi, au-delà des femmes tondues, sont comportés de façon absolument ignoble. Et puis, il n'y a pas que des résistants de la 11e heure et de la 23e heure qui sont mal comportés. Et moi, c'est ça que je voulais traiter dans mon roman. Je pense que on ne pouvait pas le faire au sortir de la guerre, parce qu'on a un regard glorificateur, finalement, sur la résistance. Le récit national, on a besoin pour prouver qu'on a gagné la guerre. Mais il y a aussi des résistants, de bons résistants, de jeunes gars qui sont très, très bien comportés, qui sont engagés très tôt. Quand je dis très tôt, ça veut dire 42-43. Et qui, au moment de la libération, quand ils ont eu le monopole de la violence légitime, en fait, quand ils ont eu le pouvoir, et le pouvoir fait ça sur tout le monde, se sont mal comportés. Et donc c'est cette thématique-là, voilà, que je voulais traiter. C'est comment, quand on est un héros, on peut. C'est ça aussi la complexité des hommes, quoi, et des femmes. Et bien, éventuellement mal se comporter, parce que on n'est pas aussi rationnel, aussi entier et aussi cohérent que ce qu'on le croit. L'humanité, c'est pas ça. L'humanité, c'est la complexité. Donc dans ce livre-là, on a parlé beaucoup du contexte historique, mais c'est pas. Voilà, moi, ce qui m'intéressait vraiment, c'est pour ça que c'est pas vraiment un polar historique, c'est plutôt, un roman noir, parce que l'intrigue en elle-même, l'enquête, est quand même moins importante. Bien sûr, on veut savoir qui a tué, mais voilà, je voulais m'interroger sur cette complexité-là, et donc la figure féminine était toute trouvée, puisqu'elle a existé. Alors, c'est aussi pour ces 20 000 sacrifiés de l'histoire de France. On en parle très peu parce que ce ne sont pas les époques les plus glorieuses quand même de l'histoire de France, l'épuration.
On pourrait considérer comme une sorte de chasse aux sorcières aussi.
Alors après, oui, il y a eu la chasse aux sorcières, mais...
Je parle de la symbolique comme au Moyen-Âge.
Ah oui, c'est ça, c'est quand je parle... Oui.
Sous des faux témoignages.
Oui,
est-ce qu'il y a aussi
cette prise en compte ? On a la symbolique de Jeanne d'Arc, des sorcières, on le sait quand je dis les femmes, c'est ça. Voilà, je pense que... Il y a des moments où les sociétés naissent par du sacré. Si on lit Totem et Tabou de Freud, en fait, il dit même que le mâle dominant de la horde sauvage est tué par ses enfants qui se lient pour le tuer. Toutes les sociétés naissent dans le sang. Et le sacré, malgré anthropologiquement, je dirais, les références qu'on a, en fait, c'est du côté de la création, c'est du côté de la femme. Et donc, je pense qu'on a utilisé ces femmes, oui, pour... c'est des moments de ferveur collective intense. Et après, je ne condamne pas non plus tout. Vous savez, vous êtes un maquisard, vous êtes engagé, vous avez perdu un camarade, deux camarades, trois camarades qui ont été torturés. Et à un moment, quand vous avez le pouvoir, qu'est-ce qu'on aurait fait ? C'est la même chose, quoi. C'est l'heure de la vengeance. C'est l'heure de la vengeance. Alors, ce qui est un peu étrange, c'est qu'il y a 20 000 femmes qui sont tondues, puis dans le même temps, on a Maurice Papon. Voilà, parce qu'après, il y a eu les lois d'armistice, on a mis une chape de plomb, un couvercle sur la chape de plomb, et puis on a recyclé du personnel de Vichy. Donc, par exemple, Maurice Papon est un cas typique. Voilà. Il était quand même préfet de police de Paris quand, avec l'accord du ministre de l'Intérieur et du général de Gaulle, il a réprimé une manifestation contre la guerre en Algérie où il y a eu des morts quand même à Paris. Il est devenu quand même ministre de Valéry Giscard d'Estaing. Chef de la milice lyonnaise, Paul Touvier a été trouvé très très tardivement. Bousquet a été protégé par le personnel politique français, et pas seulement François Mitterrand, même s'il le connaissait. Alors autant, moi, je ne suis pas du tout mitterrandien, mais par exemple, typiquement, je trouve assez scandaleux le procès qu'on fait à François Mitterrand pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce type est un catholique bourgeois de droite. Voilà, il naît dans une famille comme ça, il est haut fonctionnaire, il va à Vichy. Mais après, il n'est pas devenu résistant par opportunisme. Il n'est pas devenu résistant en juin 1944. Il est devenu résistant en 1942. Et c'est très, très tôt, en fait. C'est très, très tôt. Et vu son parcours, je pense que c'est difficile de devenir résistant. Alors autant ce qu'il a fait pour cacher une fille naturelle, alors qu'il n'avait qu'à dire qu'il avait une fille naturelle et mettre des gens, une cellule élyséenne en place, etc. Ça, c'est lamentable dans l'exercice du pouvoir. Mais son passé de résistant... ou ce qu'il a fait pour Vichy, je sais qu'il a eu la Francisque, hein. Je sais qu'il a eu une décoration quand même de Vichy, mais je pense que c'est plus complexe que ce qu'on en raconte. Et d'ailleurs, dans le livre de Pierre Péan, je pense pas que ce soit... Enfin, dans l'imaginaire collectif, on a l'impression que ce type était un collabo, quoi. Non. Et qu'on est... Mais après, je pense que c'est plus compliqué dans une vie de venir d'un milieu de droite et de devenir de gauche que de naître dans une famille communiste. Et d'être communiste. C'est ça aussi. C'est pour ça que moi, ce qui m'intéresse, c'est là. Enfin, je ne fais pas du tout. Là, je ne suis pas un défenseur de François Mitterrand du tout. Hein. Mais ce qui m'intéresse dans la fiction, justement, c'est de rendre compte des. La vie, c'est plus compliqué que les histoires qu'on en raconte. Voilà.
Hein. L'inverse aussi est observable avec Pierre Laval, qui a commencé parmi les socialistes pour finir, comme on le sait aussi.
Mais c'est ce qu'on appelle les rouges-bruns. Hein. Ouais, c'est un courant. Qu'on connaît. D'ailleurs, parfois, ce terme est utilisé à l'heure actuelle. Voilà, oui, oui. Le plus grand collaborationniste, c'est Jacques Doriot. A priori, je ne sais plus si c'est en 18-19, mais il était à Moscou, hein, Doriot. C'est pas du tout... voilà. Et Pierre Laval vient de la SFIO. Bien évidemment, le mouvement de résistance était, je pense, plus à gauche, et les communistes se sont vraiment beaucoup plus mobilisés, mais les catholiques aussi se sont mobilisés. On parle du pape qui s'est pas mal comporté, mais pas bien comporté, hein, en tout cas pendant la guerre. Mais il y a des réseaux catholiques, hein, de résistance. Et y a aussi des gens qui étaient plutôt à l'extrême droite de l'échiquier politique qui sont devenus résistants. Voilà, Daniel Cordier, le secrétaire, je crois, on dit, de Jean Moulin. Enfin, bras droit de Jean Moulin, ben, il vient de l'extrême droite. Hein. Il vient pas de. Voilà, il vient pas. Par exemple, l'un des. Je m'inspire dans ce roman d'un des personnages, le chef du Vercors Sud, voilà, qui était un militaire, qui est dans l'armée d'armistice, donc l'armée de Pétain, hein, on va dire ça comme ça, jusqu'en novembre 1942. Quand la zone libre. Dans la vraie vie, son nom de guerre, c'était Tivolet. Il fuit Lyon quand les Allemands prennent la zone sud. À cheval, hein, au nez à la barbe des Allemands. Il se réfugie dans le nord Drôme. Il fonde l'un des maquis les plus connus de la Drôme qui s'appelle le maquis Bozambo, avec Bozambo. Il se cache dans la forêt Tivolet, d'où son nom de résistant. Il monte dans le Vercors. Il devient un grand résistant à partir de début 43, alors que 6 mois avant, ce n'est pas un grand résistant. Il est dans l'armée d'armistice. Et ce type-là est un monarchiste. il est pas du tout de gauche. Non, je crois que après on a tous des idéologies politiques, c'est bien normal, hein. Mais entre l'idéal et la pratique, parfois il y a un gouffre. Et moi, ce que j'aime bien, c'est regarder en détail la façon dont ça s'est passé. Et puis la fiction, ça permet de prendre des libertés, hein, et de mettre de l'intime, de mettre des émotions. C'est ça qui est intéressant quand on fait un livre d'histoire, c'est quand même plus froid. On peut pas se permettre de mentir. Tandis que quand on fait une fiction, on peut même changer l'église de Saint-Martin-en-Vercors de place. D'ailleurs, je m'excuse auprès des habitants, enfin, je leur prie de bien vouloir m'excuser, des habitants de Saint-Martin, puisque moi, j'ai changé, pour des raisons fictionnelles, j'ai changé l'église, elle est de l'autre côté de la rue. Et il n'y a pas de platane sur la place du Tilleul. Et j'y ai mis un platane.
D'ailleurs, en préambule de ce livre, il y a un petit texte justement où vous vous excusez de certaines interprétations qui pourraient être prêtées sur les écrits. Ce livre, justement, c'était une question qui m'était venue, mais vous avez répondu à l'instant. C'était pourquoi amener cet aspect romanesque plutôt qu'un livre d'historien, puisque vous êtes quand même chercheur, hein, en sciences politiques.
Début de ma carrière.
Comment ?
Au début de ma vie.
Oui, oui.
Au début de ma
mais
vie
ce que je veux dire, c'est que vous avez une certaine manière de présenter aussi objective. Pourquoi je sais bien que vous aviez envie d'amener une fiction, des sentiments, mais est-ce que dans un texte d'historien, les sentiments existent aussi, ne serait-ce que par des notes ou des textes qu'il découvre, est-ce que ça aurait pu être aussi une manière d'amener l'aspect humain ?
Ça a déjà beaucoup été fait par des historiens. D'ailleurs, moi, en me documentant, j'ai lu des historiens. J'ai lu un ancien de la Royal Navy, un officier anglais, qui s'appelle Paddy Ashdown, qui a fait un très grand livre sur la bataille du Vercors. Il y a un historien qui a des attaches dromoises, qui s'appelle Gilles Vernion, qui est le spécialiste. Voilà, je crois que son livre doit s'appeler Le Vercors, histoire et mémoire d'un maquis. Je suis pas certain du titre. Donc ça a déjà très bien été référencé. Voilà, il y a des spécialistes, et moi je ne me prétends pas du tout historien, même si dans un passé lointain j'ai été chercheur en sciences sociales. Alors, ce que permet, je pense, la littérature, c'est on peut avoir de l'empathie quand on lit un livre d'histoire, mais quand on lit un roman, il y a encore plus d'empathie parce qu'on s'identifie au personnage. Ce que ça permet, c'est vraiment ce que moi, j'ai écrit La Sacrifiée du Vercors. Donc vous avez un personnage qui est commissaire de police, il monte dans le Vercors pour une mission de routine, ils m'ont transféré une espionne collaborationniste qui a réellement existé. Alors moi, dans mon livre, elle s'appelle la baronne Ehrlich, mais dans la vraie vie, elle ne s'appelait pas comme ça. Et puis quand ils montent, donc ils tombent sur le cadavre de cette Marie Valette, il se met à vouloir enquêter, parce qu'il est quand même commissaire de police. Et puis il tombe pendant l'enquête sur une photoreporteur de guerre américaine, du magazine Life, qui s'appelle Judith Alston, qui est le personnage, une aventurière, voilà, plus solaire.
Une Lee Miller.
Alors, je me suis inspiré d'un personnage réel, voilà, qui était correspondante de guerre pour Life et qui a pris la première photo, enfin les premières photos du camp de Buchenwald. Et il y a notamment une photo qui est utilisée, vous savez, comment ça s'appelle, Moss. Oui. Alors le dessin, par exemple, avec tous les prisonniers derrière les fils de fer barbelés, bah, c'est une photo de... Alors j'ai plus le nom, je crois qu'elle s'appelle Margaret Bourke, et c'est un nom composé, j'ai pas le nom entier. Mais je me suis un petit peu inspiré de cette personne, mais après voilà, ça reste de la fiction. Mais ce que je voulais dire par rapport au personnage, c'est qu'on s'identifie à George et à Judith dans le livre. Parce que le livre est raconté un petit peu de leur point de vue. Donc on va forcément se mettre à la place des personnages. Ils voient les horreurs, ils voient les crimes, ils voient le Vercors en ruine, ils traversent la chapelle, ils voient les villes, enfin les villages par terre, ça sent encore la mort. Quand ils sont allés nettoyer, quand il y a eu des volontaires du Diwa qui sont allés nettoyer la Vassieux, ça sentait la chair humaine, hein. C'est un charnier à ciel ouvert. Donc je pense qu'on s'identifie, voilà, on s'identifie vraiment à ces personnages parce que ces personnages souffrent dans un livre d'histoire. Bon, l'historien essaie de ne pas avoir trop d'empathie justement parce qu'il essaie d'être objectif. Mais ces personnages peuvent être joyeux dans leur relation entre deux, peuvent souffrir. Voilà, ils sont confrontés à des maquisards. Ils sont confrontés aussi notamment parce que dans mon histoire, sans rien déflorer de l'intrigue, il y a des coupables tout désignés. Il y a des charbonniers italiens sur le plateau. Et donc, ils sont désignés au début du roman comme les coupables. Et les deux, Judith et Georges, ont le sens du juste. Et en fait, ils veulent découvrir qui a vraiment assassiné cette Marie Valette. Qui l'a tondue. Et en fait, c'est la fille d'une grande famille de résistants. Donc, le fait qu'elle a été tondue leur pose un problème. C'est pas normal. Donc ils se mettent à enquêter. Donc je pense que, enfin j'espère, j'en sais rien, j'espère que les lecteurs s'identifient. Et du coup, on vit peut-être, on le vit avec de l'émotion. Voilà, on n'est pas dans le... Moi, c'est pas du tout un livre d'histoire, c'est pas pour... peut-être qu'on peut se... peut-être qu'on apprend certaines choses. Après, moi, je l'ai entendu dans les familles, vous voyez, que les corsets étaient taillés dans les parachutes américains. Oui, moi, je l'avais entendu de la bouche de ma grand-mère. Alors peut-être que dans les jeunes générations... ça fait œuvre aussi de pédagogie, c'est aussi un travail de mémoire. Mais voilà, c'était surtout moi ce qui m'intéresse, c'est les personnages, comment on s'identifie, ce qu'ils vivent. Et puis à la fin du roman, ils sont confrontés à un dilemme. Et là, le spectateur, excusez-moi, on n'est pas au cinéma, le lecteur, c'est parce que je suis en train de travailler sur un scénario, c'est pour ça. Le lecteur, il est dans la peau des personnages. Et moi, face à ce dilemme, qu'est-ce que j'aurais fait? Et c'est vraiment une question que j'ai toujours eu en moi. Qu'est-ce que j'aurais fait?
Comment vous vous êtes documenté tous ces détails, ne serait-ce que une marque de cigarette peut-être, ou tel type de voiture, ou la manière de s'habiller. Comment vous vous êtes documenté sur ces aspects simples du quotidien d'alors?
Déjà dans les livres d'histoire. Après, il y a de la presse aussi. Après, j'avais les documents de mon grand-père. Puis après, il y a des romans. Il y a de la littérature qui a déjà été écrite. Alors, il y a notamment 3 grands romans, 4. Le quatrième, je suis en train de le lire parce que le sujet était très proche du mien, donc je ne voulais pas le lire avant. Il y a, alors, qui ne sont pas du tout des romanciers de droite, de gauche, c'est plutôt des romanciers de droite, qui au sortir de la guerre, en fait, ont fait des romans sur l'épuration, avec un regard critique. Alors, ce n'est pas vraiment des romans sur l'épuration, en fait, c'est des romans sur la collaboration. Ce n'est pas pour, c'est pas pour pardonner, c'est pour expliquer les parcours. Le premier roman s'appelle La Crève, de Frédéric Dard. Uranus, le deuxième, Uranus de Marcel Aimé, et le troisième, Les Épées de Roger Nimier. Donc là, il y a du détail. Parce qu'après, moi, quand je lis les livres d'histoire, ce n'est pas les grandes dates qui m'intéressent. Le débarquement de Normandie, le débarquement de Provence, 15 août, ça, ce n'est pas intéressant pour moi. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que dans les livres d'histoire, il y a des témoignages. Il y a des interviews de personnes qui ont accepté de Verta Comicorien, c'est ça, je prononce bien, qui ont accepté de témoigner. Donc voilà, comment on parlait, comment on s'habillait. Et c'est des préoccupations souvent du quotidien. C'était les ponctions sur le bétail, sur le lait, ce qu'on leur prenait. Donc moi, ce que je vais utiliser quand j'écris, ce sont ces éléments-là. Et après, s'il y a un côté un peu cinématographique, je pense que c'est parce que c'est pour les contraintes artistiques que je me suis imposé. En fait, quand j'écris, j'essaie d'explorer ce qu'on appelle, le potentiel et limites de ce qu'on appelle le behaviorisme en sciences sociales ou en littérature ou en cinéma. C'est quoi ce qu'on appelle la littérature objective? C'est-à-dire que on ne rentre pas dans la tête des personnages dans mon roman. C'est comme si c'était un œil de caméra. Ça s'apparente d'ailleurs assez au cinéma. Donc en fait, Georges et Judith, on voit ce qu'ils voient. Mais en fait, ils ne se demandent. Il n'y a pas de phrase du type « je me suis demandé si » ou « ils n'ont pas peur, ils ne sont pas angoissés ». On n'a pas leurs émotions. On a juste ce qu'ils voient et leur dialogue. Les émotions, on peut l'avoir dans le dialogue. Et donc, c'est au lecteur à se fabriquer lui-même, ou à la lectrice, d'ailleurs, il y a plus de lectrices que de lecteurs, à se fabriquer en fait les émotions des personnages et la psychologie des personnages. Donc, je pense que le côté assez visuel, ça vient de la contrainte artistique de départ qui est, j'ai rien inventé. Hein, c'est la grande. C'est parce que moi, mes romanciers fétiches sont, au-delà de James Ellroy qui est que je vénère, qui est un romancier américain, c'est la grande littérature noire du début des années 40. Aux États-Unis, qui est cette littérature qui a importé en fait le behaviorisme en littérature, Raymond Chandler, Dashiell Hammett, La Moisson Rouge, des auteurs à gauche pour le coup, même suspectés de communisme pour Dashiell Hammett aux États-Unis.
Y a La Sacrifiée du Vercors. Ouais. Qu'est-ce qui a éveillé en vous cette
C'est vraiment les 20 000 tondus, voilà. C'est qu'on a sacrifié des femmes. Pourquoi? Pourquoi? C'est quand même très, c'est quand même atroce ce qu'elles ont vécu. Et elles ont survécu en plus, les tondus. Et il y a des familles qui sont marquées au fer rouge. J'ai un ami romancier qui s'appelle Grégory Nicolas qui a écrit Des histoires pour 100 ans. Et voilà, et c'est l'histoire justement de ce qui reste dans une famille une fois qu'on a tondu la grand-mère, quoi. C'est le sacrifice qu'il nous faut pour fonder une société. Et je sais bien qu'on est dans une époque assez violente, mais moi, je dois être quelqu'un de raisonnable et de rationnel parce que c'est quand même assez incroyable, ce besoin des humains collectivement d'être violents et d'exterminer pour pouvoir créer une nouvelle société sur des fondations sanguinolentes. Donc c'est la sacrifiée du Vercors, c'est ça, c'est que cette jeune femme est en fait tout simplement sacrifiée. Après, je ne donne pas les vrais coupables, mais cette jeune femme est sacrifiée dans le livre.
Vous avez écrit d'autres ouvrages auparavant, La politique du tumulte, Les rêves de guerre, Tuer Jupiter et l'ange rouge. Ça, ce sont plutôt des textes qui s'adressent à un public plus précis.
Non, moi je fais du rock. Je suis plutôt classé roman noir, on va dire ça comme ça. Polar, roman noir. Le texte qui est un petit peu à part, qui est de la littérature blanche, il est sorti d'ailleurs en rentrée littéraire en 2018, c'est Tuer Jupiter, Voilà, bah, c'est le texte dont on a le plus parlé, puisque par le thème en fait qui est abordé, puisque c'est l'assassinat fictif d'Emmanuel Macron. Enfin, mais Emmanuel Macron s'appelle Emmanuel Macron dans le livre, donc. Et son cadavre est même embaumé à l'intérieur du livre. Mais je ne l'ai pas fait du tout par anti-macronisme primaire. Je l'ai fait, en fait, pour sonder ce que j'appelle, moi, la datasphère, c'est-à-dire le monde dans lequel on vit, ce monde surinformé, où tout le monde peut produire des informations sur Twitter, Instagram, des blogs, où on est surinformé. Voilà. Et on pensait tous que ce serait plus simple de juger, de décider. Mais jusqu'à preuve du contraire, ça a l'air beaucoup plus compliqué. Puisqu'on ne sait pas si Raoult avait raison ou avait tort. Les électeurs de Donald Trump pensent que Biden n'a pas gagné. Et on ne sait plus ce qui est vrai. Voilà. Et c'est vraiment, je pense, la singularité de l'époque. Je dis souvent, des grandes migrations, on en a connu dans l'histoire de l'humanité. De grandes extinctions des espèces, on en a déjà connu. Ce n'est pas la première qu'on est en train de vivre. D'ailleurs, ça, c'est pas pour dire que c'est pas grave, hein, mais c'est pas la première. Mais par contre, ce qu'on n'a jamais connu, c'est le fait que le vrai, ce qu'on appelait la vérité, ça n'existe plus. Mais concrètement, avant, il y a des gens qui pouvaient dire oh non, on croit pas en Dieu. Oui, d'accord, mais on en restait au stade des idées. Mais maintenant, on est dans un moment d'angoisse collective incroyable parce qu'on ne sait plus rien sur rien. Et dans ce monde-là, les informations dont on, alors maintenant, on appelle ça des data, dont on parle le plus, ce sont les data les informations les plus violentes. Donc c'est pour ça que Donald Trump était tout à fait adapté au système d'information tel qu'il fonctionne. En fait, c'est pas, on dit ce type était stupide. Ben non, en fait, ce type, ses tweets de quelques caractères où il disait « je suis amoureux de Kim Jong-un », c'était parfait, parce que c'était tellement fou et tellement violent que ça pouvait émerger. Et donc, c'est pour ça que j'avais tué Emmanuel Macron. C'était violent quand même, c'est le crime. On tue le roi. Hein, et donc, j'avais appliqué tous les codes de l'hypercommunication à la littérature pour parler de ce monde complètement dingue dans lequel on vit, et où finalement, la seule vie qu'on ait, c'est de se retirer et d'aller planter d'aller faire le jardin, quoi, hein, les carottes et les poireaux, quoi, vous voyez.
Donc cette confusion, on en retrouve quand même aujourd'hui quelques similarités. Est-ce que ça, c'est un réel danger à vos yeux, ce qui se produit aujourd'hui au niveau de cette déliquescence de la société par cette multitude de surinformations, comme vous dites, et qui donc amène une confusion? Et est-ce que finalement, les Français ne voteraient pas en ayant une grande cécité?
Moi, j'ai voulu aussi faire ce livre parce que je pense qu'on est toujours voilà, les grandes fondations idéologiques de notre pays politique, c'est encore la Seconde Guerre mondiale. Et comme, en fait, on n'a pas vraiment gagné la guerre, mais que grâce à quelques héros, de Gaulle et l'accord qu'il a fait avec les communistes, on l'a gagné, on n'a pas eu à faire notre examen de conscience. On n'a pas eu à faire le même examen de conscience. Alors je sais qu'il y a des néo-nazis en Allemagne, mais quand même, eux, ils ont dû faire leur examen de conscience, vous voyez, collectivement. Et nous, ça, on n'a pas eu à le faire. Je me suis toujours demandé que, voilà, si on avait dit, bah, majoritairement, les Français n'ont rien fait, parce que c'est pas, ils n'ont pas majoritairement collaboré, voilà, ils ont minoritairement été résistants ou été collaborateurs et majoritairement rien fait. Voilà. Et ben, je pense que la parole serait peut-être un petit peu moins libre désormais, vous voyez. On n'aurait pas, notamment sur les immigrés, quoi. Et sur des mots qu'on n'utilise jamais, hein, mais ce que les gens appellent les Arabes, notamment, vous voyez, les Arabes, les Africains, enfin tout ce qui est arabe, africain, là, c'est un problème. Et la parole, c'est libéré. Et comme... alors après, moi, je ne dis pas que c'était mieux avant. Pour répondre plus directement à la question, avant, il y avait le RTF, le directeur de cabinet de Gaulle, il appelait le présentateur du 20h et il faisait l'ordre du jour du 20h. Alors après, ce qui sortait, c'était vrai ou faux. Mais c'était vrai ou faux. Ouais, c'est ça, hein, philosophiquement, le statut. Et maintenant, bah, tout le monde peut écrire n'importe quoi. Et quand vous avez des élites populistes qui sont des leaders d'opinion à la Bolsonaro, à la Trump, ou à la Johnson, ou à la Orban, enfin, on est cerné, hein. Non, mais c'est pas une minorité, ça, hein, c'est un mouvement massif. Ben, c'est vrai qu'après, on voit... Alors moi, je pense pas que c'était un acte révolutionnaire. Hein. Je pense même pas que c'était un coup d'État. Alors, peut-être, si ça avait réussi, je sais pas comment naissent les coups d'État, la prise du Capitole. mais on voit quand même des énergumènes avec qui arborent des symboles fascistes sous des peaux d'animal. Peut-être que ce sont des fausses peaux qui viennent de Chine, j'en sais rien. Mais c'est très, oui, je pense que c'est très très inquiétant. Et je pense aussi que le système d'information est fait pour les conspirationnistes. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ouais, c'est comme ça que ça fonctionne. Parce qu'on est dans un bistrot. Ah. Le web, ça fonctionne comme dans un bistrot. Il n'y a pas de régulateur public. C'est aux mains de grandes entreprises privées qui défendent leurs intérêts privés. Et donc, ils laissent faire n'importe quoi tant que ça ne leur nuit pas. Ce qui fait qu'on est dans un grand bistrot où les gens sont assez alcoolisés. Et où, c'est comme dans le bistrot, hein, quand c'est celui ou celle, qui, souvent celui d'ailleurs, qui est le plus alcoolisé et qui dit les plus grosses énormités qu'on entend le mieux. Et bien ça fonctionne désormais comme ça. Et puis il y a quand même voilà, des rapports très très critiques aussi par rapport à ce qui descend du sommet. Quoi. Parce qu'on ne sait plus quoi. On ne sait même plus qui va être confiné, pas confiné. Non, mais vous avez vu la gestion. Et mais ça... Après, moi, franchement, je n'aimerais pas être à leur place pour gérer, même si je pense qu'ils ne sont pas très, très bons. Mais ouais, c'est le système de diffusion de l'information. Quoi. Tout le monde peut s'exprimer, surtout. On est dans une espèce de brouhaha. Et moi, je pense, par contre, qu'il y a une solution. Je ne veux pas être trop négatif. Il y a une solution à ça. La solution, ce n'est pas la régulation. On ne va rien réguler à un réseau. Ce n'est pas une pyramide. On peut couper un bout de réseau, ben il restera toujours le reste du réseau. La seule solution, en fait, c'est que les récepteurs et les producteurs soient formés. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un niveau éducatif, intellectuel et culturel de masse, hein, excessivement élevé. Voilà. Pour que tout le monde soit capable de faire le tri. Je vais sur Google, je fais une recherche et je suis, moi, en capacité de me dire qui c'est qui a produit cette donnée. Est-ce que la personne ou l'organisme qui l'a produit, je peux lui faire confiance ? Est-ce que je peux le vérifier ? Est-ce qu'il y a des contre-arguments ? Voilà. Il faudrait que tout le monde soit en capacité d'être dans cette réflexion-là. Et à ce que j'observe, je ne crois pas. Et même moi, qui suis surdiplômé, qui suis plutôt... qui a un capital culturel élevé, plutôt favorisé, même si je ne suis pas né dans une famille ultra favorisée au départ, mais qui part, j'ai eu la chance, voilà, j'ai fait des études, etc. Il m'arrive souvent de tomber dans le piège. Vous savez, il y a des sites parodiques comme le Gorafi ou NordPress, on ne sait pas trop qui c'est. Des fois, il y a des infos qui sortent, c'est tellement bien foutu que pendant 2-3 secondes, je crois que c'est vrai. Alors que non, en fait, c'est parodique, c'est faux. Donc... ouais, je vous dis, je pense que on vit à un moment quand même collectivement assez angoissant. Alors après, rien n'empêche d'aller nous balader dans la montagne. Il y a des anxiolytiques naturels.
Ce n'est pas donné à tout le monde, hein, encore plus pour les gens qui habitent dans des grandes villes.
Ça, c'est sûr. Oui, mais bon, vous savez, les gens qu'on habite dans les grandes villes, maintenant, on les montre du doigt et on dit, regardez ces méchants petits jeunes de cité, pour pas dire arabes, qui peuvent pas vivre dans 42 mètres carrés à 8 et qui respectent pas le confinement. On vit dans ce monde-là. Hein. Et si on a fait notre examen de conscience, notamment sur les dénonciations qu'il y a eu pendant la Seconde Guerre mondiale, peut-être qu'on se comporterait mieux.
Quelles sont les maisons d'édition avec qui ?
J'ai un éditeur historique, qui est un petit éditeur indépendant, enfin petit, qui grandit, qui s'appelle La Manufacture de Livres, chez qui j'ai déjà fait 4 romans, et où paraîtra mon prochain roman, sans doute l'année prochaine, voilà, qui est la suite de L'Ange Rouge, qui est un pur polar. Et puis, là, comme j'ai fait un roman historique, c'est la rencontre en fait, entre mon désir d'écrire sur ce sujet et une éditrice voilà, qui voulait... que je connais très bien, qui s'appelle Elsa Delachère, voilà, qui est directrice éditoriale de 10-18. Et on a discuté de ce sujet. Elle m'a dit, c'est pour moi. Donc, d'un commun accord avec mon éditeur qui s'appelle Pierre Fourniaud à la Manufacture des Livres, j'ai fait ce livre-là chez 10-18. Mais le prochain, c'est à la Manu.
François Médeline, je vous souhaite une bonne soirée.
Merci beaucoup, à vous aussi.
Au revoir.
Au revoir.